Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Nous commémorons cette année le centenaire de la naissance d'un des plus grands intellectuels français du XXe siècle. Sociologue, philosophe, politologue, spécialiste des relations internationales, comme beaucoup d'intellectuels et de penseurs, nul n'est prophète en son pays, il dut donc traverser l'Atlantique pour obtenir un succès mérité en son temps, notamment auprès d'un certain Henry Kissinger. On l'oppose souvent à Jean-Paul Sartre. Pourtant, son parcours ne se limite guère à ce face-à-face, vous l'aurez reconnu, il s'agit de Raymond Aron. L'Académie des sciences morales et politiques a rendu indirectement hommage à ce penseur du XXe siècle en accordant à son biographe Nicolas Bavrez le prix Drouin de Lhuis pour son ouvrage paru chez Flammarion en 2005. Alors, pour évoquer ce parcours intellectuel, mais aussi tout simplement cet homme, cet universitaire qu'il était, je reçois Alain Besançon. Alain Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien élève de Raymond Aron. Vous faites partie du conseil de rédaction, d'ailleurs, de la revue Commentaire, revue que Raymond Aron a fondée, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et auteur de plusieurs ouvrages. Ce n'est pas la première fois que je vous reçois au micro d'Un jour dans l'histoire, puisque vous êtes venu évoquer Le malheur du siècle, un livre que l'on retrouve dans la collection Tempus, la collection de poche des éditions Perrin. Alors j'ai tenu également à inviter au micro d'Un jour dans l'histoire un jeune historien, Christian Malice. Christian Malice, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure, docteur en histoire, lauréat du prix Raymond Aron et auteur d'une thèse sur un des aspects les moins connus de l'œuvre d'Aron, et pourtant il s'agit d'un des aspects les plus importants de son œuvre puisqu'il s'agit de stratégie, et plus exactement de stratégie militaire. Votre thèse a été publiée cette année chez Economica sous le titre Raymond Aron et le débat stratégique français 1930-1966, un ouvrage paru dans la collection d'Hervé Couteau-Bégari, la bibliothèque stratégique. Alors, avant d'évoquer précisément cet aspect stratégique, je me tourne vers Alain Besançon pour parler de cet homme. Et ma foi, ma première question sera toute simple, monsieur Besançon. Quand avez-vous rencontré pour la première fois Raymond Aron ?
Quand j'étais élève à Sciences Po, j'ai poussé une porte, j'ai vu un monsieur qui parlait, on m'a dit que c'était Raymond Aron. Je n'ai pas franchi la porte parce que je ne sais pas pourquoi Raymond Aron, moi j'étais à ce moment-là d'extrême gauche, je n'avais pas bonne réputation. En tout cas, il parlait de choses beaucoup plus savantes que je n'étais capable d'entendre. Je n'avais que 17 ans à l'époque, à Sciences Po, j'étais entré trop jeune. Et de toute façon, Raymond Aron avait une position extraordinairement marginale à Sciences Po, qui n'est jamais arrivé à une position centrale dans cette institution. Alors la deuxième fois que j'ai rencontré Raymond Aron, c'était en 1968. J'étais à ce moment-là professeur dans une université américaine et j'avais suivi autant que j'avais pu le début dans les journaux américains, mais c'est extrêmement difficile de savoir ce qui se passe en France dans un journal américain. Enfin, j'avais décidé de revenir, j'étais revenu avec Braudel, que je n'avais pas trouvé dans de très bonnes dispositions, et j'ai trouvé mon école, qui était l'école des hautes études, en folie. Or, à l'époque, je connaissais très bien l'URSS, où j'avais vécu, je connaissais très bien le communisme, qui me paraissait une horrible chose, mais extrêmement dangereuse, et je redoutais beaucoup ce qui se passait en France. Je redoutais beaucoup ce qui se passait en France. Je ne savais pas que le pacte tacite entre De Gaulle et Brejnev allait tenir dans ce mois-ci, parce que je ne le prenais pas au sérieux les gauchistes, je prenais très au sérieux la CGT et le Parti communiste, et ça me paraissait donc une situation dangereuse. En fait, ils n'ont pas voulu pousser leur avantage, et c'est les gauchistes plutôt qui ont tenu le premier plan dans cette année et les années qui suivent. Donc, je me souviens très bien, quand j'ai rencontré Raymond Aron, j'ai eu le sentiment de trouver enfin une oasis de gens, disons, à la fois honnêtes et de sang-froid. Hein, c'est-à-dire
ce sont les premières qualités que vous avez jugées chez
et
lui.
Et courageuse, parce que Raymond Aron, dans ce moment où tant d'intellectuels avaient perdu la tête, hein, lui ne l'a pas perdu. Il était d'ailleurs, nous avions à peu près la même analyse, d'ailleurs à ce moment-là, il était également extraordinairement inquiet, mais cette inquiétude n'a pas tourné en lâcheté, à la différence de, je dois l'avouer, avec un peu ma honte, de beaucoup de mes collègues. Alors, depuis ce moment-là, ma fidélité et mon admiration et mon amour, je peux le dire, pour Raymond Aron ne s'est pas démenti une seule fois. Si vous voulez, il s'est formé entre nous, dans ce fin de mois de mai 68, une espèce de, disons, d'alliance vassalique, hein, où moi j'occupais le rôle de vassal, mais j'avais 36 ans, j'étais déjà formé, j'étais maître assistant à l'école des hautes études. C'est bien que mes rapports, si vous voulez, de maître à élève n'ont pas été formellement de maître à élève. Simplement, j'ai assisté jusqu'à ce qu'il prenne fin, au séminaire de Raymond Aron. Nous étions à peu près une dizaine. En particulier, il y avait Jean-Claude Casanova, qui est à mon âge, ma fille Frelin plus jeune, qui est maintenant d'ailleurs aussi à l'Institut, et qui a fondé, sous le patronage d'Aron, la revue Commentaire. Il y avait Béchler, qui est aussi maintenant collègue à l'Institut. Il y avait Annie Kriegel, qui malheureusement est morte. Il y avait Costas Papayoannou, qui maintenant est mort. C'était ça, le noyau des fidèles. On se retrouvait dans un bel hôtel particulier qui se trouvait rue de Tournon, où l'école des hautes études avait un petit bout de salle. Et c'est dans ce petit bout de salle que vraiment, il y a eu là un très beau moment de la vie intellectuelle pour nous tous. Nous étions à contre-courant, de façon extrêmement nette. Tiens, je cite aussi Georges Liébert, qui est devenu un éditeur et qui avait fondé la revue qui a précédé Commentaire, et dont Commentaire a repris un peu l'héritage, qui s'appelait Contrepoint. Nous avons tous collaboré à cette revue qui s'est fondue, en quelque sorte, dans Commentaire. Et puis voilà, ça a été donc de belles années. C'est avec Raymond Aron que j'ai passé une thèse mouvementée de doctorat d'État, là, dans l'amphithéâtre Guizot. C'était un peu plus tard. Et j'ai vu Aron entrer au Collège de France. Et enfin, vraiment, j'ai vu Aron à la morgue de l'Hôtel Dieu, parce que Raymond Aron venait de mourir subitement. Son pacemaker l'avait lâché à la sortie du procès,
du tribunal, oui,
où il témoignait en faveur de Jouvenel. Mmh. Hein. Et bon, j'étais là à l'hôpital et je l'ai vu mourir. J'étais à son enterrement, qui a été une fête très douce, très amicale, très calme. On sentait qu'il n'y avait que des amis. C'est quand Guilhem qui avait prononcé le discours. Il y avait sa famille, il y avait les amis. Et c'était une journée ensoleillée. Et je dois dire que nous n'étions pas déchirés par le chagrin, tant cette vie avait été belle, digne, et tant nous l'aimions. Voilà.
Alors, il y a eu au mois de mars dernier dans Le Figaro une série d'hommages à l'écrivain disparu. Vous avez participé à cet hommage dans un article intitulé « Pourquoi nous aimions Aron ?» et vous y développez l'idée qu'Aron n'avait absolument rien du doctrinaire, mais avait au contraire une discipline et, je vous cite, une moralité de pensée. Quelle est cette moralité de pensée ?
Oui, c'est pour ça que quand vous avez commencé en prononçant le mot intellectuel, je trouve que ce mot est un peu trop prostitué pour l'appliquer à Raymond Aron. Raymond Aron était un homme qui pensait, qui écrivait, qui enseignait. C'était pas un intellectuel au sens où on emploie ce mot. Et de même, le fameux parallèle avec Sartre est une chose que je ne peux pas supporter. Ils avaient été camarades à l'école normale. Mais enfin, il y a autant de rapports entre Sartre et Aron. Ce sont des pendants de cheminée absolument préfabriqués, comme, je sais pas moi, Pascal Descartes, Racine, Corneille, Stendhal, Balzac. Bon, il y a eu des rapports entre eux. En 68, justement, Sartre a commencé à insulter Aron dans la façon la plus méprisable, il faut bien le dire. Ses amis l'ont défendu. Aron, lui, avait pour Sartre une espèce d'amitié désolée, qu'il n'a jamais renié. Vous savez qu'il y a eu un moment, moi je crois qu'au moment du Vietnam, je crois qu'il y a eu une espèce de démarche commune de Sartre et Aron. Sartre était aveugle et un peu out. Et Aron, je me souviens, était plein d'une vieille affection pour ce vieux camarade qui n'avait pas très bien tourné à ses yeux, mais jamais je ne l'ai entendu dire du mal de Sartre, jamais. Jamais, au contraire, il prenait la peine de lire les ouvrages de Sartre, de les réfuter, mais sur un plan, disons, purement de la vérité. Hein, sur le plan de la vérité, simplement. Il se trouvait que c'était incohérent, que ça ne tenait pas debout, que c'était même pas très sympathique par certains côtés. Mais jamais il y avait ces insultes extrêmement basses que Sartre adressait à Aron. Ça, c'est donc cette fabrication de cette symétrie Sartre et Aron me paraît, disons, une sottise historique de plus. Voilà.
Cette passion de la vérité, c'est un des grands aspects de l'œuvre de Raymond Aron qui s'oppose à l'esprit révolutionnaire et utopique.
Ben Raymond Aron avait commencé sa vie comme philosophe, en somme. Comme philosophe, il avait fait une thèse de philosophie pure. Il avait été en Allemagne. Il avait donc vu ce qu'était l'idéologie totalitaire. Enfin, il l'avait vu sur l'Allemagne. Il l'avait vu sur la Russie. Il a longtemps hésité, d'ailleurs, à écrire parce que il était juif et il avait peur qu'on dise que c'était parce qu'il était juif qu'il attaquait Hitler et qu'il mettait en garde ses compatriotes contre le danger nazi, contre le danger de l'Allemagne nazie. C'est un scrupule qu'il avait. Vous savez, c'était l'époque où on accusait justement les juifs d'être bellicistes, alors que l'humeur générale des Français était au pacifisme. Ensuite, Aron n'a pas fait de philosophie pure. Je pense qu'il avait senti qu'il n'était pas fait pour faire de la philosophie pure. Et il admirait à cet égard le talent incontestable de Sartre. Alors il a appris des choses qu'on ignorait en France. C'est-à-dire la sociologie allemande, et il a quand même introduit tous ces philosophes allemands, que ce soit Dilthey, Weber, etc. Surtout Weber, pour qui il avait une très très grande admiration. Il a appris également les mécanismes de l'économie politique moderne, qu'on ignorait tout à fait en France. Ce qui lui a donné, disons, une culture à la fois vers la sociologie et vers l'économie politique qu'il a, en somme, exploité, qu'il a fait fructifier pendant toute sa vie.
C'est ce que vous dites dans votre article. Vous dites qu'en fait, le réactionnaire qu'il était s'ouvrait au monde.
Oh, il n'était pas réactionnaire pour un sou, Aron. Non, il n'était pas réactionnaire. Il n'a jamais appartenu à la famille de droite. Enfin, il avait commencé plutôt comme socialiste. Enfin, c'est pas ça. Mais enfin, disons, quand il était à l'école normale supérieure, il était socialiste. Et puis, c'est à ce moment-là qu'en sortant, qu'il a commencé à s'interroger sur la valeur de ceci. Ça a été une longue enquête chez lui. Alors, il a pensé que le socialisme, n'était pas cohérent. Il a cessé d'être socialiste, mais il n'est jamais devenu un homme de droite. Enfin, ça n'existe pas. Et au contraire, enfin, d'une certaine façon, il voulait la modernisation de la France. Il voulait que la France apprenne justement auprès du monde allemand d'abord, puis anglo-saxon ensuite, là où était la science véritable. Il a jamais été complètement étranger à ces cercles de droite qui étaient plus ou moins influencés par l'Action française et qui détestaient tout ce qui venait d'Allemagne ou tout ce qui venait du monde anglo-saxon. Ça, c'était complètement étranger à Aron. Quant à l'après-guerre, bien sûr, il était anticommuniste, mais moi, je sais ce que c'est. Moi, j'ai toujours été anticommuniste et à cause de cela et à cause de cela uniquement, j'ai passé par un homme de droite. Mmh. Et encore aujourd'hui, avoir été anticommuniste, c'est considéré comme pas bien, c'est considéré comme un peu réactionnaire. Eh bien, Aron était nettement anticommuniste, comme il était anti-nazi, hein. Il n'était pas réactionnaire pour un sou. Au contraire, pour lui, il n'y avait pas de pire régression possible pour la France que de passer au communisme ou à des formes dérivées du communisme. C'est pour ça qu'en 68, il était fort inquiet et qu'au moment où le programme commun a commencé à s'appliquer en France, eh bien, il était tout simplement désolé pour le pays. Désolé pour le pays.
Je reçois Alain Besançon et Christian Malice et nous évoquons la personnalité, l'universitaire qui était Aron, l'écrivain également. Nous nous retrouvons dans un instant.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie répond à la question « Faut-il faire confiance aux historiens ?» Quelques exemples de communication, « Les historiens et la légende noire du Second Empire », Sacha Guitry et les historiens, « Peut-on faire confiance aux historiens de la médecine ?» Les archives nationales. Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Canal Académie.
On retrouve Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Christian Malice, auteur d'une thèse sur Raymond Aron et le débat stratégique français, ainsi que Alain Besançon. Alain Besançon, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques et vous avez été, comme vous venez de le décrire, un ancien élève privilégié dans un cercle restreint.
Disons... sorte de disciple, si vous voulez.
Un disciple. Alors, Christian Malice, vous vouliez faire une remarque par rapport à ce que disait Alain Besançon.
J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Alain Besançon en disant, mais Raymond Aron n'était pas un intellectuel. En tout cas, dans l'acception, disons, sartrienne du terme. Et ça me fait penser à la façon dont, personnellement, moi, j'ai rencontré Aron, alors non pas en chair et en os, hein, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai eu une rencontre intellectuelle avec Aron au début des années 80, alors que j'avais une quinzaine d'années, donc ça fait à peu près 25 ans. Et c'était une époque où le débat idéologique était encore très intense. Moi, je m'intéressais beaucoup aux questions stratégiques, au rapport Est-Ouest, au problème du communisme. Et puis, je suis tombé sur ce qui constitue, je pense, encore la meilleure porte d'accès à son œuvre, c'est-à-dire d'une part ses mémoires, et puis d'autre part le spectateur engagé. Et là, j'ai découvert une pensée d'une part extrêmement riche, riche en extension, c'est-à-dire balayant les aspects politiques, économiques, militaires des problèmes ou les affaires internationales, riche en profondeur, c'est-à-dire étant capable de faire des analyses de conjoncture, d'actualité, des analyses plus sociologiques et des analyses à un niveau encore un niveau de compréhension encore en deçà, des analyses théoriques. C'est un petit peu les niveaux de compréhension que lui-même a définis dans un ouvrage important du début des années 60. Et je n'ai jamais eu l'impression d'être enfermé dans une pensée a priori ou dans une doctrine. Au contraire, j'avais un sentiment de respiration, de liberté, parce que la pensée d'Aron n'était pas un catalogue de recettes ou une doctrine, c'était au fond une méthode de pensée. Et cette capacité qu'il avait, qui était sa méthode à mon avis, de naviguer entre les différents niveaux de la compréhension, les affaires elles-mêmes, la théorie, la sociologie, c'est ce qu'il y a de remarquable et qui l'oppose à des intellectuels qui ont un côté plus doctrinaire. Et puis l'autre point là-dessus, c'est qu'Aron a voulu délibérément s'évader de l'intelligentsia française qui, comme l'intelligentsia russe, je pense, a une espèce de tradition d'un magistère oppositionnel qu'il a délibérément voulu fuir en pratiquant cette éthique de la responsabilité de son maître en sociologie, c'est-à-dire Max Weber. Et c'est ce qu'il a amené à s'initier aux affaires militaires parce qu'à partir en particulier de 1940, il a vécu la guerre dans des conditions assez intéressantes. Il s'est dit, mais il n'est pas possible que je sois un commentateur honnête de l'actualité, que je sois le spectateur engagé que je souhaite être, si je ne connais pas les rapports de force, si je ne sais pas parler des choses de stratégie, de la même façon qu'il s'était initié, comme l'a dit Alain Besançon, à l'économie politique, en particulier par une relecture critique de Marx, pour tester son socialisme juvénile. Mmh. Et bien à partir de 40, Aron était sergent sur le front à Mézières en mai 40. Et il a pris de plein fouet le choc des colonnes blindées de Guderian, c'est-à-dire l'axe même de pénétration du Blitzkrieg allemand, il était au milieu. C'est quand même quelque chose d'étonnant.
Il était dans la météo.
Il était sergent, il était dans la météo.
Il était dans la météo.
Et c'est un épisode qui est absolument fascinant parce que c'est assez emblématique de son rapport un petit peu, je dirais, à l'engagement et à sa méditation sur la guerre. C'est-à-dire, en 1940, il a été un petit peu au cœur de l'événement et en même temps, il ne s'est pas battu, il n'a jamais vu les Allemands. D'une certaine manière, il l'a beaucoup regretté. Il est rejoint à Londres ensuite, il a voulu travailler dans une unité de char, on ne l'a pas pris, et il s'est retrouvé propulsé comme rédacteur en chef de la principale revue du général de Gaulle, qui s'appelait La France Libre. Et puis, alors je saute à pieds joints, eh bien, au début des années 60, d'une certaine manière, il a participé d'une manière extrêmement virulente au débat militaire sur les questions de nucléaire. Il s'est opposé à la force de frappe du général de Gaulle, en tout cas à la conception militaire que de Gaulle en avait. Mais au fond, je pense que c'est quelqu'un qui aurait souhaité, qui s'est laissé un petit peu enfermé dans son débat avec de Gaulle, qui s'est laissé un peu enfermé dans le rôle de l'opposant extrêmement brillant, et qui aurait aimé quand même pouvoir, pas seulement commenter les affaires, mais être un peu conseiller du prince, peut-être jouer un rôle dans, sinon auprès de Gaulle, au moins dans un ministère, un peu la première partie de la carrière de Kissinger.
Plus engagé que spectateur. Alain Besançon ?
Il faut bien voir quelle était la surface, disons, de Raymond Aron dans les années 45-60. C'était une surface extrêmement réduite. Hein, il n'avait pas de grand... Et quand il a été nommé professeur à la Sorbonne, il y a eu des gens qui ont protesté. Ils ont dit, c'est quelqu'un qui est un journaliste, c'est pas un véritable universitaire. C'est pourtant à la Sorbonne qu'il a fait ses grands cours, qui sont tout à fait classiques. J'en reviendrai peut-être là-dessus, parce qu'il y a un point sur lequel j'ai toujours été en désaccord avec lui, parce que bien que je reconnaisse mon caractère de disciple, il y avait des échanges entre nous, et sur un certain point, il a un peu changé sous mon influence, j'oserais le dire. Mais enfin, bon, il a fait ce cours très célèbre en trois parties sur les sociologies industrielles, et puis il a fait ce cours absolument magistral sur les grandes doctrines de la sociologie, dans lequel il parle merveilleusement d'Auguste Comte, sans beaucoup de bienveillance envers Durkheim, qu'il sous-estime un peu à mon avis, très bien sur Tocqueville, brillant sur Pareto, et évidemment plein d'admiration et de respect pour Weber, qu'il pense avoir été le plus grand de la sociologie. En 1968, Raymond Aron n'avait pas du tout accédé à la gloire. Nous avons l'impression que Raymond Aron avait une gloire parallèle à celle de Sartre, mais c'est pas vrai du tout. Raymond Aron était un journaliste au Figaro. Son salaire était, je crois, le 19e ou le 20e ou le 24e du Figaro. Enfin, il était beaucoup moins payé que bien d'autres badernes qui écrivaient dans ce journal. Il était donc professeur à la Sorbonne, mais un professeur contesté dans une Sorbonne qui était dans un milieu universitaire qui était de gauche. Puis c'est tout. L'ordre à Sciences Po, bien, il n'y était pas à Sciences Po. Il avait un cours à Sciences Po, mais il n'avait pas d'enseignement très important. La gloire d'Aron, elle a commencé, je dirais, 3-4 ans avant sa mort. Il est mort en 83. Eh bien, je dirais qu'entre Solzhenitsyn et 83, disons, il y a eu un retour vers Aron. Quand même, les intellectuels français ont commencé à s'apercevoir qu'ils étaient vraiment gourés en grand, et que cette erreur était moralement pas très honorable. Et à ce moment-là, Aron a commencé, au Collège de France, à connaître une certaine gloire, mais qui était une gloire qui n'était pas celle d'un gourou. C'était l'époque de Lacan, c'était l'époque de Foucault. C'était cela qui entraînait la jeunesse. Hein. C'était pas Aron. Aron était toujours pour Happy Few. Pour Happy Few.
Là-dessus, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je tempérerai. Il est certain que Aron n'a pas connu la gloire, une grande gloire qu'on appellerait aujourd'hui médiatique, avant les dates que vous signalez, la fin des années 70, le début des années 80.
Et encore.
Cela étant, il a eu une influence et un magistère, en tout cas auprès des gens qui comptaient dans la décision. Je veux dire par là que dans les années 50 et dans les années 60, il fréquentait quand même un cercle relativement restreint de décideurs diplomatiques et militaires. Il était en relation avec quand même les principaux généraux français qui ont joué un rôle dans la définition de notre stratégie militaire. Et d'autre part, en particulier au début des années 60, il était très introduit dans le cercle rapproché de l'administration Kennedy. Il a rencontré Kennedy à un certain nombre de reprises. Kennedy était entouré, c'était pour Aron une aubaine, un certain nombre d'intellectuels, c'est pour certains issus de Harvard, et qui le conseillaient. C'était les fameuses... C'était les fameux crânes d'œufs. Et il a essayé de jouer un rôle d'intermédiaire au plus fort de la controverse nucléaire franco-américaine en 1962, d'intermédiaire et d'infléchir, ou en tout cas de jouer un rôle de pédagogue expliquant aux Américains les positions françaises et réciproquement. Pour ma part, je reste persuadé qu'il aurait aimé aller un peu plus loin que le rôle dans lequel il a dû se cantonner, c'est-à-dire un rôle d'opposant extrêmement brillant en France, un rôle de spectateur, de pur finalement de spectateur, de commentateur, et qu'il aurait aimé qu'on fasse appel à ses services en tant que conseiller. Il a essayé d'ailleurs de fonder, il a participé en tout cas à la fondation d'un institut d'études stratégiques, mais finalement, bon, dans le contexte français, ça n'a pas donné grand-chose. Et pour terminer sur ce point, je pense que ça soulève un problème plus général en France, qui est celui du rôle social des intellectuels. Je veux dire par là que des gens comme Aron aux États-Unis auraient eu plusieurs possibilités pour participer aux affaires, dans ces domaines un peu appliqués que sont la stratégie, les affaires internationales. Grâce au think tank, grâce au fait qu'un universitaire peut plus facilement devenir conseiller dans une administration, grâce aux fondations. Oui. Il y a une séparation en France entre l'université et le reste, le monde politique, etc. Et je pense qu'Aron, d'une certaine manière, en a été un petit peu la victime. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue.
Je crois que c'est très vrai tout ce que vous dites. Il est certain qu'il y avait une sorte de gaspillage très français en pensant qu'une tête pareille n'a pas pu conseiller comme il aurait été bon. De Gaulle qui ne jugeait pas, je pense, Raymond Aron à sa vraie valeur, ou Giscard d'Estaing, parce que Giscard d'Estaing, je me souviens très bien, c'était en 74. Bon, il y a eu un moment, si vous voulez, où on a pensé que Raymond Aron pouvait jouer un rôle important. Pas du tout. Non, la classe politique est vraiment coupée des intellectuels. Aux États-Unis, Est-ce qu'il aurait pu devenir... quels sont les postes importants? C'est devenir secrétaire d'État. Hein. Alors, ça a été le cas de Kissinger. Kissinger a dit « Raymond Aron, my master ». Non, ça c'est de la blague. Hein. C'est purement et simplement de la blague. Il y avait un autre, pour qui, à mon avis, plus intelligent que Kissinger, qui était Brzezinski. Mais Brzezinski n'a pas eu l'autorité, n'a pas la durée de Kissinger. Et Raymond Aron faisait partie effectivement du cercle assez proche de ces gens-là. Je dirais qu'il y avait quelque chose de pompeux chez Kissinger qui ne devait pas tellement plaire à Raymond Aron, alors que Brzezinski est un homme beaucoup plus accessible, beaucoup plus ouvert, avec qui, je pense, Raymond Aron se serait mieux entendu. Mais, bon, il y avait tout cet aspect stratégique extrêmement très important, mais enfin, Raymond Aron continuait de penser aux grands auteurs et à enseigner les grands auteurs, en particulier Marx. Marx, il a rêvé de faire un grand livre sur Marx, et heureusement, il l'a pas fait. Mais il en est resté des bouts que Jean-Claude Casanova a admirablement
rassemblé,
et il a fait le Marx de Raymond Aron, hein, qui est effectivement beaucoup plus le vrai Marx que le Marx d'Althusser. Althusser qui a confessé n'avoir jamais lu Marx, tout simplement. Il avait lu, je crois, un bout du Capital, et puis c'est tout. Le reste, c'était, comme a dit Raymond Aron dans un de ses livres, un marxisme imaginaire. Lui, il savait ce que c'était que Marx. Il l'avait lu très à fond en allemand, etc. Il le connaissait très bien. Et puis, ses grands auteurs aussi, Clausewitz. Hein? Alors là, c'était très beau parce que Raymond Aron avait à ce moment-là à peu près 68-70 ans. Il s'est mis à son Clausewitz comme un étudiant, vraiment comme un jeune homme. C'était absolument épatant. Il pestait contre les traductions abominables qu'on avait fait en français de Clausewitz. Il allait le chercher en allemand, précipitait à l'école normale supérieure, à la bibliothèque pour voir les bonnes éditions, etc. C'était merveilleux de voir ce vieil homme, hein, lire Clausewitz avec cet enthousiasme et essayer de l'appliquer aux conditions actuelles. Effectivement, Clausewitz est un auteur presque inconnu à l'époque, presque inconnu, et Raymond Aron est de ceux qui l'ont fait revenir. Je pense, parmi les auteurs qui l'ont fait revenir, on cite toujours Tocqueville. Bon, Tocqueville n'avait jamais été ignoré quand même, mais... Moi, je sais, j'avais trouvé deux auteurs qui n'étaient plus édités dans la bibliothèque de mon grand-père, qui étaient Tocqueville et Augustin Cochin. Ouais, Augustin Cochin. Je les avais lus très jeunes. Je me souviens, quand j'étais en Russie en 1961, j'avais une amie qui était une vieille dame qui avait lu l'Ancien Régime et la Révolution. Et ben, nous étions en 61. Je trouvais admirable que quelqu'un ait lu Tocqueville et en plus que ce fût en Russie. C'était une vieille dame qui était la femme d'un prêtre et qui vivait très pauvrement. Mais enfin, Tocqueville avait été lu en Russie au 19e siècle. Il existait des éditions russes de Tocqueville pour ceux qui voulaient bien le lire. Mais enfin, manifestement, Aron est maintenant associé à la résurrection de Tocqueville comme penseur de la démocratie.
Je me dois de couper cette conversation passionnée et passionnante. Nous nous retrouvons dans un instant.
Canal Académie.
Un jour dans l'histoire reçoit Christian Malice et Alain Besançon, tous les deux spécialistes du monde de Raymond Aron. Nous avons évoqué Raymond Aron, restaurateur de nombreuses œuvres, notamment celle de Clausewitz, ce qui nous permet de passer à un aspect plus stratégique et militaire de l'œuvre d'Aron. C'est votre spécialité, Christian Malice, puisque vous avez édité aux éditions Economica Raymond Aron et le débat stratégique français 1930-1966. Dans la préparation de cette émission, Christian Malice, nous avons essayé de trouver trois charnières très importantes, trois idées importantes dans l'œuvre de stratégie militaire d'Aron. Et le premier point qui vous est venu à l'idée immédiatement, c'est la question de la guerre. Et cette question de la guerre, cette question de stratégie militaire, Aron se la pose très tôt, il se la pose comme beaucoup de monde à une époque, c'est au moment de la défaite en 1940.
Oui, tout à fait. Alors, pour lui, c'est un petit peu une découverte, au fond. Il prend conscience, un peu de la même façon qu'il avait pris conscience que son pacifisme instinctif, son pacifisme malinien de jeunesse, ne tenait pas la distance, ne tenait pas la route, si j'ose dire, face à Hitler, quand il était en Allemagne en 1933. Eh bien, il a pris conscience que le dédain qu'il avait eu pour les affaires militaires, comme la plupart des intellectuels de sa génération, ainsi que le pacifisme, ne tenait pas la route face à l'histoire se faisant, à l'histoire telle qu'il était en train, de la vivre. Et la guerre a eu, sur son œuvre et sur sa vie, une influence extrêmement considérable, au moins à deux égards. D'abord, d'un point de vue, je dirais, biographique, la guerre a été, pour lui, ce que j'appelle un choc météorique. La trajectoire d'Aron était, après, à la fin des années 30, une trajectoire assez classique d'universitaire. Il avait soutenu sa thèse brillamment devant Braunschweig et il s'apprêtait à enseigner. Il avait commencé à enseigner. Il aurait dû avoir un parcours universitaire. Et malgré tout, il n'a repris vraiment la carrière universitaire qu'en 1955. Quand on dit Aron l'universitaire, c'est un peu vite dit. La guerre a complètement déplacé cette trajectoire. Elle l'a amené à revêtir la figure qu'il a eue, c'est-à-dire universitaire certes, mais aussi essayiste, journaliste, et avec une communication entre toutes ces pans de son activité. Je veux dire par là que, étant à Londres, il est devenu le rédacteur en chef de la revue La France Libre, et en 1945, à la suite de la guerre, il a dit « mais jamais je ne pourrai retourner dans une classe d'université avec 2 douzaines d'étudiants, je vais m'ennuyer à mourir, il faut que je participe ». Que je participe à la vie nationale, et pour ça, eh bien, le journalisme, le Figaro, un certain nombre de cours et des essais lui paraissaient une voie beaucoup plus appropriée que l'université. Donc, un premier déplacement de trajectoire par le fait même de la guerre, mais aussi et surtout, la guerre totale est entrée dans sa vie et dans son œuvre.
Ce concept de guerre totale renvoie à la Première Guerre mondiale, mais se confirme également avec la Deuxième Guerre.
Disons, dans l'esprit d'Aron...
Surtout la guerre froide. Surtout la guerre froide. C'est ça qui est... Et là, Aron a milité dans ce cercle très international, d'ailleurs, qui était autour de la revue Preuve.
Absolument. Hein,
et dans la collection qu'il a dirigée chez Calmann Lévy, qui était la collection Liberté de l'Esprit. Alors, qui était dans la revue Preuve? Ben, vous aviez des tas de gens, que j'ai bien connus d'ailleurs, dont la plupart sont morts. J'en profite pour rappeler la mémoire d'un de ces héros qui sont morts sans gloire alors qu'ils la méritent, Léo Labetz, Léopold Labetz, et un autre qui s'appelle Branko Lazic, qui était un homme admirable, merveilleusement savant, et à qui personne n'a jamais réussi à obtenir un poste universitaire en France. Quant à Léo Labetz, c'était à peu près la même chose, il a rédigé à peu près tout seul une admirable revue qui s'appelait Survey, et il est mort dans l'abandon, les deux jambes coupées, tout seul, il fallait le subventionner, enfin, voilà, ça c'est les héros de la... Ces héros de l'anticommunisme qui n'ont pas été traités aussi bien que les héros de l'antifascisme ou de l'antinazisme. Et ça, je trouve que c'est une grande injustice de notre temps, d'autant plus que la plupart des héros de l'antifascisme se sont mouillés dans le communisme, que la plupart des... alors que très peu nombreux ont été ceux qui ont fait face aux deux monstres successivement, ou en même temps.
Christian Malice.
Oui, effectivement, la guerre totale, par exemple, dans les circonstances de la guerre froide, mais je dirais sur l'ensemble de l'histoire du XXe siècle, et on peut même probablement remonter un peu plus haut, pour Aron, la guerre totale, c'est-à-dire le fait qu'un conflit important dégénère en conflit, en guerre hyperbolique, hein, pour reprendre l'expression de Ferrero, ne connaissent pratiquement plus de limites et se mettent à consommer les richesses, les ressources, des nations. Pour lui, c'est une sorte de malédiction et de maléfice des relations internationales du XXe siècle. Et d'une certaine manière, c'est le risque qui guette tous les conflits du XXe siècle, un petit peu d'ailleurs comme le totalitarisme et le risque qui guette les sociétés modernes. Il a observé qu'à partir de 1914, et ce qu'il a appelé dans les guerres en chaîne la surprise technique, eh bien, les nations ne savent plus arrêter un conflit. Elles dépassent brusquement même les intentions initiales de leurs auteurs et, comme une espèce de force naturelle, elles se déchaînent. Les nations belligérantes de 1914 souhaitaient une guerre courte et avaient des objectifs initiaux relativement limités. Et on est arrivé à un conflit total et hyperbolique. Hitler lui-même...
Contre quoi Clausewitz avait mis en garde.
Absolument.
Clausewitz est un théoricien de la guerre limitée. Quand il dit que la guerre est la politique conduite par d'autres moyens, ça veut dire que quand même, ce qui compte, c'est la politique. Or, au XXe siècle, c'était la politique qui est devenue la guerre conduite par d'autres moyens.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est précisément l'apport d'Aron que d'avoir montré que dans la véritable compréhension de Clausewitz, la rationalité politique l'emporte sur le déchaînement pur de la force guerrière. Alors que dans l'esprit de beaucoup de gens, Clausewitz, c'était justement la guerre menée avec le maximum de brutalité. C'était quand même le théoricien des guerres napoléoniennes. Donc, on a pensé à cette époque, notamment à l'époque nucléaire, les années 50 et 60, que la théorie de Clausewitz n'était plus adaptée pour comprendre notre époque. Et Aron, c'est pour ça aussi qu'il s'est intéressé à Clausewitz. Aron a dit, il faut absolument savoir arrêter une guerre, il faut restaurer la rationalité politique. Et en particulier, il y a un aspect des débats stratégiques des années 50 et 60 pour lequel il a joué un rôle important, c'est quand s'est imposée une nouvelle doctrine militaire qui était la doctrine de la riposte graduée. Jusqu'à la fin des années 50, les pays d'Occident avaient une doctrine dite de représailles massives, où grossièrement, eh bien, en cas de menace soviétique, eh bien, on menaçait l'Union soviétique d'un châtiment total avec toutes les armes atomiques stratégiques dont pouvaient disposer en particulier les États-Unis. Et puis une autre doctrine s'est imposée et Aron a joué un rôle important. C'est une doctrine dite de riposte graduée, c'est on répond à une agression classique avec un minimum de violence, elle aussi classique. Et puis éventuellement on monte un petit peu dans l'échelle de la violence, mais on cherche toujours à conserver le contrôle politique parce que ce qu'il faut sauver, comme vous l'avez dit, il faut sauver la guerre en fait. Il faut sauver la guerre, en tout cas limiter, rendre à nouveau possible une guerre qui ne monte pas aux extrêmes. Et il trouve dans Clausewitz, justement, le secret théorique ou la compréhension théorique que c'est la politique qui doit mener la guerre, et non l'inverse, tel que ça a été la pratique au XXe siècle.
Les plans soviétiques étaient des plans de guerre totale et qu'il n'y en avait pas d'autres. Si ce n'était pas tombé dans les mains de vieillards kakoshim et qui voulaient rester chez eux, si on a eu de la chance. Moi, je crois qu'entre 75, c'est-à-dire la chute de Saïgon, et 80, c'est-à-dire le début de la décomposition du régime soviétique, nous avons eu un moment extrêmement dangereux. extrêmement dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, je suis assez d'accord. D'ailleurs, j'ai été frappé d'apprendre que dans les plans de guerre soviétique, la phase initiale commençait non pas par une attaque purement conventionnelle, comme on pouvait l'espérer, par 186 frappes tactiques atomiques pour neutraliser immédiatement toutes les capacités de défense conventionnelle ou de défense sur le champ de bataille des forces de l'OTAN, et puis le plus rapidement possible emporter le morceau avant d'être puni par les frappes, disons, thermonucléaires sur les villes soviétiques. Et c'est vrai que ça a fait la discussion entre Aron et un certain nombre de stratèges français sur ce que risquait de faire l'Union soviétique a porté un petit peu là-dessus. Aron a dit, non, il faut absolument préserver la possibilité d'un conflit qui demeure à un stade purement conventionnel, parce que il faut sauver la possibilité d'une guerre purement limitée. Et certains stratèges français, comme le général Gallois, lui ont dit, mais vous n'y pensez pas, les soviétiques ne sont pas fous. Ils savent que ce qui est efficace aujourd'hui dans le monde militaire moderne, c'est l'atome. Ils n'hésiteront pas à taper très dur d'entrée de jeu.
Alors ça a été le seul petit point de désaccord amical avec Aron, c'est-à-dire la compréhension de l'URSS. Par exemple, en matière économique, Aron croyait, plus ou moins, il ne croyait pas les chiffres soviétiques, évidemment, mais il croyait un peu les chiffres anglais et américains sur le développement de l'URSS. Moi, je n'y croyais pas du tout, mais je disais que le modèle soviétique était un modèle de sous-développement, de sous-développement économique, et que ça conduisait à une désertification progressive du pays. Aron trouvait que j'exagérais. Et j'avais écrit un petit livre qui s'appelait L'économie politique du socialisme réel. Ça s'appelait L'anatomie d'un spectre. Aron m'a engueulé. Il a trouvé vraiment que j'exagérais. J'exagérais pas du tout. J'étais même en dessous de la vérité.
Alors, Christian Maïs, comment se place Raymond Aron par rapport au débat du gaullisme et de l'indépendance nationale qui est un débat important directement lié à la politique nucléaire de la France?
C'est un débat très important, y compris pour comprendre Aron. La relation d'Aron au gaullisme et à De Gaulle en particulier a toujours été ambiguë et même ambivalente. D'ailleurs, lui-même a dit un jour à Alain Perfit en 62. Moi, j'ai été gaulliste quand il fallait être anti-gaulliste, et puis j'ai été anti-gaulliste quand il aurait fallu être gaulliste. En fait, il y a eu trois périodes. Pendant la guerre, il a rejoint quand même le général de Gaulle en juin, pour un certain nombre de raisons, mais bon. Cela étant, il a commis en 43 un article qui a fait beaucoup de bruit dans le Landerneau londonien, qui s'appelait « L'ombre des Bonaparte ». Et en 43, il expliquait qu'il fallait que la France, la future France libérée sache s'épargner la tentation du sauveur. Et évidemment, il désignait un petit peu le Bonaparte possible, c'était quand même De Gaulle. Donc, vous voyez, il y avait déjà une sorte d'ambiguïté. Après la guerre, il a rejoint le RPF. C'est vrai. Pendant quelques années quand même, mais il a été un pied dedans, un pied dehors. Et puis surtout, au début des années 60, à la fois, il se disait quand même, la cinquième c'est mieux que la quatrième, on a enfin quelqu'un qui représente dignement notre pays à l'extérieur, et ça il appréciait. Mais qu'est-ce qu'il a pu harceler le régime à tous les points de vue, au point qu'en 61, je crois, il a écrit « Adieu au gaullisme », qui est un article très dur pour le général, et le général en a conclu, de toute façon, il n'a jamais été gaulliste.
Alors, il était très patriote français, à l'ancienne.
Il était très patriote. Hein,
c'était quand même cette génération de grands juifs, allés à Croix de Guerre, et complètement patriote français. Ça, c'était très remarquable chez Raymond Aron.
Je crois que si on essaie de saisir la matière de leur divergence, c'est très intéressant. Il y a trois points concrets sur lesquels ils avaient une divergence d'opinion ou d'analyse réelle. Moi, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais il y a le problème allemand, la relation avec les États-Unis et la compréhension du communisme et l'Union soviétique. Mais le point le plus important, à mon avis, c'est la perception du déclin de la France. Ou plutôt, pour Aron, la France est un pays en déclin, en ce sens que elle est définitivement déclassée dans l'échelle des puissances. La défaite de 40, là, confirmée par Suez en 56, fait que la France doit assumer son rang, c'est-à-dire un second, elle peut être un second des États-Unis.
Oui, mais un second honorable.
Honorable, mais pas plus.
Bien sûr.
Et pour De Gaulle, c'est tout à fait... pour De Gaulle, je crois que c'est différent. De Gaulle avait une vue... longue de l'histoire de France, et il pensait que la France était dans une situation de déclassement provisoire. Il a dit un jour, une chose que je trouve extrêmement significative, au début des années 60, la France a exagérément décliné depuis un siècle, donc depuis le Second Empire, elle doit reprendre sa place. Pour ma part, je suis convaincu que De Gaulle, qui voyait très loin, imaginez assez volontiers la France, redressée par ses soins et par ceux de ses prédécesseurs, redevenue à un horizon de 2030, une grande puissance capable de mener le concert européen à égalité avec la Russie.
Et oui, mais alors là, c'était ne pas comprendre la Russie. De Gaulle avait une vision de la Russie qui était la Russie éternelle. Staline, nouveau tsar. Or, c'était une vision fausse. C'était essayer d'éliminer le facteur idéologique. Et ça, Raymond Aron voyait très bien l'importance du facteur idéologique. Raymond Aron, sur ces deux points, c'est-à-dire le déclin de la France, mais possiblement un pays honorable, bien géré, moderne, etc. Et d'autre part, un pays qui resterait un pays second, hein, de second plan, parce que l'histoire en avait l'avait décidé ainsi. Raymond Aron avait entièrement raison, à mon avis, contre De Gaulle sur ces deux points.
Il avait sans doute raison en ce sens qu'il n'était pas possible pour la France de redevenir en quelques années, malgré la magie du verbe gaullien et puis les réalisations du régime, une grande puissance. Cela étant, la place de Briand second était prise. Aron, je pense, rêvait que la France ait une politique à la britannique, c'est-à-dire un proche conseiller et Briand second, comme vous l'avez dit, Briand second militaire et politique des États-Unis.
Oui, c'était possible.
Le problème, c'est qu'une place de ce type était déjà prise par les Anglais. C'est d'ailleurs toujours, je pense, la stratégie des Anglais, hein, du régime de Tony Blair. Oui, il colle. Et du coup, la France, aujourd'hui, se rabat sur l'Europe, ce qu'a fait aussi
avant
De Gaulle. Mais la place est prise.
De ses propres hommes.
Mais le Briand second, c'est difficile d'avoir de Briand second.
Mais alors là, c'est un peu ridicule, c'est d'avoir été quand même, d'avoir une position, de considérer comme symétrique la France par rapport à entre la Russie, comme disait De Gaulle, et les États-Unis, ce qui aboutissait à être extrêmement désagréable avec son allié et extrêmement aimable avec son ennemi. Oui. Et refuser de reconnaître que l'Union soviétique était l'ennemi de la France était quand même quelque chose d'utopique, était un mauvais jugement. Et là-dessus, Aron était mieux.
À tel point qu'Aron a reproché à De Gaulle de ne pas avoir été, je cite, l'éducateur de son peuple, ce qui est un rapproche très grave, en disant que De Gaulle avait contribué à brouiller l'image de l'ennemi et à faire penser que l'ennemi de la France c'était les États-Unis, alors que c'était l'Union soviétique.
Mais ce qu'il a appelé le gaullo-communisme, c'était une formule un peu dure, c'est Garon, n'est-ce pas, la formule d'Aron, gaullo-communisme, une formule dure, mais enfin qui dans les dernières années de De Gaulle était, ma foi, correspondait aux faits.
Un des mots que je retiens, messieurs, de votre conversation, c'est l'Europe. Alors, Aron était-il un précurseur de l'Europe? C'est une question que je vous poserai dans notre dernière partie. À tout de suite.
Canal Académie.
Nous nous retrouvons pour la dernière partie de notre émission consacrée au centenaire de Raymond Aron. Nous avons évoqué sa pensée militaire, nous avons évoqué l'universitaire, le journaliste. Peut-on dire, messieurs, que Raymond Aron était un précurseur de l'Europe? Vous avez souligné tout à l'heure son patriotisme. Est-ce qu'au fond, il était Christian Malise sur le plan militaire, Alain Besançon sur le plan des idées, un précurseur?
Il était patriote, il n'était pas nationaliste. Hein. Et il y a en tout cas un pays avec lequel Raymond Aron a voulu tout de suite se réconcilier, c'est l'Allemagne. Il avait une admiration intellectuelle pour un penseur allemand qui avait été nazi, qui était Carl Schmitt. Hein, qui était vraiment un personnage qui a pris des positions assez odieuses sous le régime nazi et qui ne s'en est jamais repenti. Eh bien, Aron, parce qu'il avait une véritable admiration intellectuelle pour Carl Schmitt, a écrit une lettre déférente à Carl Schmitt, je crois, dès 1945, et a voulu reprendre un commerce intellectuel. Là, Aron était vraiment... avait le sens de ce qu'on appelait autrefois la République des Lettres, c'est-à-dire quelque chose qui relie les gens... les esprits supérieurs, comme il disait, n'est-ce pas, quelles qu'aient été leurs sottises ou leurs sottises politiques ou même le caractère odieux quelquefois de leurs idées. Mmh. Il aimait l'Allemagne, il admirait l'Allemagne. Je dirais même qu'au fond, comme toute cette génération depuis longtemps, cette génération philosophique depuis la fin du 19e siècle, la France était quand même à l'école de l'Allemagne, qui était l'Athènes de l'Europe, enfin jusqu'en 1930. Hein, et Aron appartenait encore à cette génération. Donc, l'idée qu'on puisse se dégoûter de l'Allemagne, alors qu'il savait très bien ce que c'était que le nazisme, il était juif en plus, hein, eh bien ça ne comptait absolument pas devant disons, la noblesse de la vie intellectuelle.
Christian Malice.
Je crois qu'Aron a été à la fois effectivement un précurseur de l'Europe et en même temps il a été très partagé sur l'Europe, je dirais, à la Jean Monnet. Il a été précurseur parce que dès 44-45, il est convaincu que les pays d'Europe occidentale doivent unir leurs forces, concentrer un petit peu leurs capacités. D'ailleurs, c'était une idée assez banale. Même De Gaulle explique qu'on est à l'âge des concentrations et qu'il faut s'unir. Il y avait des projets d'union occidentale, de l'Europe occidentale. Il en est convaincu, cela étant, il est... et puis d'autre part, comme l'a rappelé Alain Besançon, c'est très très juste, l'Allemagne, il pense qu'il faut que la vocation prioritaire de la France, à partir de la fin des années 40, c'est d'arrimer l'Allemagne à l'Occident, et pour cela, il faut lui proposer une alternative à la tentation de la réunification, et cette alternative, c'est la construction, un projet grandiose qui est la construction européenne. Mais... il était très réservé sur l'Europe de Jean Monnet, on le voit très bien au moment de la CED, ce projet d'union fédérale sur le militaire, hein, avec en particulier une armée commune de 50, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la constitution récente. Il est très réservé parce qu'il estime que c'est un machin de constitutionnaliste et qu'on ne fusionne pas comme ça d'un trait de plume des nations qui ont plusieurs siècles d'existence. À cet égard, il est proche des conceptions de De Gaulle. Il finit par se rallier en 53-54 à la CED parce qu'il y vaut mieux ça que de ne rien faire. Et la CED, c'est un moyen de réarmer l'Allemagne, ce qui pour lui était indispensable d'un point de vue de l'équilibre des forces vis-à-vis de l'Union soviétique. Sur le fond, je pense que Aron était quand même quelqu'un qui avait une conception de la nation comme quelque chose, comme un aboutissement merveilleux, une sorte d'équilibre de coïncidence entre un territoire, un État et puis un peuple plus ou moins homogène, que la nation française, comme d'autres nations d'Europe, était un peu des réussites historiques assez, assez remarquables. Arriver vraiment à fusionner tout ça dans un ensemble fédéral, lui, je crois qu'il était sceptique. Et je pense qu'il a été au fond partagé, c'est-à-dire dire qu'il a été très européen, oui, européen au sens de Jean Monnet, fédéraliste européen, je pense qu'il a fluctué, mais que lui-même, vieux patriote lorrain, se demandait si c'était vraiment possible, voire souhaitable. Pour De Gaulle, c'était ni possible, ni souhaitable.
Raymond Aron, Alain Besançon.
Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Christian Malice, ça me paraît une description tout à fait juste.
Un sceptique, Raymond Aron, un sceptique, à la française. Un peu à l'exemple d'un Sainte-Beuve.
Non, mais enfin, n'oubliez pas que les soviétiques avaient une carte très forte à jouer. C'était de tenter de séparer l'Allemagne de l'Europe en lui proposant la réunification. Mmh. Et ce chantage a joué, mais jusqu'au dernier moment, jusqu'à Gorbatchev. Et c'est toujours un peu ric-rac que l'Allemagne est tombée du bon côté. Hein, c'était une chose capitale, donc l'option européenne était inévitable. Parce que si l'Allemagne était détachée de l'Europe, l'Amérique s'en allait de l'Europe aussi, et puis c'était fini. Hein, à ce moment-là, c'était l'Europe entière qui était soviétisée. C'était un danger très grave qui a duré jusqu'en 80. La maison commune européenne, c'est encore ça. Hein, c'était le slogan de Gorbatchev. C'est encore ça.
Il nous reste quelques minutes, Alain Besançon et Christian Malice. Peut-être un dernier mot tout simplement sur l'homme. Vous montrez, Alain Besançon, que c'était un homme modeste, fidèle dans l'amitié. Est-ce qu'il y avait chez Raymond Aron une forme de mélancolie? Une mélancolie peut-être qui aurait été une conséquence de la possibilité d'agir.
Un homme qui pense à avoir raison sur beaucoup de points et qui voit les gouvernants, ses compatriotes prendre une autre voie ne peut pas être tout à fait heureux. Hein. Il pensait quand même qu'il avait fait son devoir en donnant des analyses justes. Et il était mélancolique. Il était, pour cela, il était un homme serein. Il est un homme serein. Moi, je l'ai vu quand il a eu son accident cérébral, quand même 4 ou 5 ans avant sa mort. Il l'a pris avec un courage, une humilité, un détachement vraiment, vraiment admirable. Vraiment admirable. Eh bien, ça n'empêchait pas, si vous voulez, de conserver une espèce de... de mélancolie du point de vue de Sirius, si vous voulez, de voir les choses toujours tomber du mauvais côté, du moins à son avis.
Christian Malice, vous dites dans votre livre que c'était un spectateur, mais qu'il aurait souhaité peut-être être davantage dans l'engagement.
Oui, je le pense, c'est pour ça que je parle un peu d'une sorte de rendez-vous manqué avec lui-même. Sur cette question de la mélancolie, justement, ça, pour répondre à M. Besançon, alors, moi je n'ai pas connu Aron, donc je ne peux pas témoigner du sentiment que j'aurais pu avoir à son contact. Mais j'ai été frappé de lire un entretien qu'a eu avec lui Annick Riegel, qui rapporte Aron la questionnant, Annick Riegel avait fait de la résistance, et Aron la questionne en disant « Pendant la guerre, moi j'ai écrit ». Je ne me suis pas battu, j'étais rédacteur en chef d'une revue, donc c'était une contribution utile, mais je ne me suis pas battu. Est-ce que vous pensez que j'ai fait le bon choix ?
Alors, Annick Riegel. C'est un savant remords qu'il a eu jusqu'à la fin.
Voilà, Annick Riegel lui répond oui, bien sûr, c'était très utile, tout en pensant dans son fort intérieur, en tout cas c'est ce qu'elle rapporte, que c'était un travail utile mais décalé, qu'il aurait gagné une expérience prodigieuse à se battre. Et Aron lui rétorque, quand elle lui dit « Oui, vous avez eu raison », il dit « Oui, mais vous oubliez que je suis juif ». Eh bien, je pense qu'à la fois comme juif, mais aussi comme homme, alors qu'il était profondément courageux, enfin c'est ce qu'Alain a Besançon a rappelé, ne pas avoir pu défendre ses convictions à un moment comme celui de la guerre, les armes à la main, alors qu'il était courageux et patriote, alors que des Romains Gary et des autres allaient dans les avions, allaient dans les chars. Lui, il voulait entrer dans une unité de chars en 40, et on l'a mis à la comptabilité, parce qu'un sergent de 35 ans, on n'allait pas le mettre sur, comme chef de char.
Je pense qu'il l'a regretté. Il n'était pas très doué pour la chose militaire.
Non, il n'était pas très doué, c'est vrai.
Je crois que c'est pas... Quand on l'a mis de côté... qu'on lui a refusé.
On l'a sûrement bien
chars,
fait.
Je crois qu'on a bien fait. Après tout, il aurait pu.
On l'a bien fait pour la France.
Pour mais
tuer. C'était un ami de Malraux aussi.
N'oubliez pas que c'est un homme qui avait subi de très graves épreuves dans sa vie familiale. Il avait une petite fille qu'il adorait et qui est morte d'une leucémie. Mmh. Il en a fait une autre qui était mongole, qui était trisomique. Ce sont des épreuves affreuses et qu'il a supportées avec équanimité.
Eh bien, c'est sur cette image de sérénité que vous nous avez transmise, Alain Besançon, que nous allons nous quitter. Pas vraiment nous quitter, puisque nous nous retrouvons dans un instant pour les 5 minutes de Clio avec Christian Malice, puisqu'Alain Besançon, vous aviez déjà répondu à ce questionnaire à l'occasion d'une émission d'Un jour dans l'histoire. À tout de suite.